RMC Grand Plateau, Georges Quirino.
Ciao, bonne affaire, bonsoir, comme disait une drôle de dame bien connue sur RMC. Et oui, on y est, parce qu'il n'y a pas que Paul Sexas sur le Tour de France dans la vie. Hein. Il y a aussi le Giro d'Italia qui commence cette semaine, le premier grand tour de la saison. Et là, Christophe Cessieux a passé quelques semaines en Italie pendant les Jeux Olympiques. Il veut encore le tiramisu, donc le Giro d'Italia l'intéresse.
Buongiorno.
Ciao.
Come stai?
Ce serait bien qu'un jour tu nous fasses intégral Giro.
Ah, mais j'adorerais. Imagine. L'Italie, j'adore. Le mois de mai, j'adore. Et les Dolomites, c'est encore plus magnifique. Donc, ouais. Mais bon, il faudrait un plateau autre que celui qu'on a cette année.
On va en parler. Jérôme Coppel est là. Il a participé à plein de Giro d'Italia, j'ai vu en préparant. Salut Jérôme.
Autant que de Paris-Roubaix.
Bonjour à tous. Bonjour à tous.
Ah, ouais. Bon, c'est que tu n'as jamais été dans une équipe italienne ou un truc comme ça. Donc, forcément, ça joue.
Exact. Ouais, ouais. Exact.
Pierre Cochette est là, salut Pierre.
Salut.
Ouais. Le Giro, c'est il y a un truc. Hein.
Ouais, c'est pas mal. Hein.
Romantisme, ouais, quand même.
Tu sais jamais ce qui va se passer.
Exactement. Premier grand tour de la saison. Dès ce vendredi, départ de la 109e édition du Giro, qui va s'élancer hors d'Italie pour la 16e fois. Cette fois-ci, ce sera de Bulgarie pour 3 jours. Direction ensuite le sud de la Botte pour attaquer les cimes des Abruzzes, avant les Apennins, les Alpes, dans la vallée d'Aoste. Les coureurs finiront dans les Dolomites. Alors, tu le disais, y aura-t-il de la neige, y aura-t-il de la pluie? Ça fait toujours partie de ça. Y aura-t-il des remontadas comme Charlie Gaulle, comme Fausto Coppi, comme Chris Froome, comme le Squall du Messine, le requin de Messine, Vincenzo Nibali? Un Giro peut-être plus léger que d'habitude, parce qu'il n'y aura pas de Stelvio, il n'y aura pas de Monte Zoncolan, avec un chrono tout plat au milieu de 42 km et surtout un immense favori au milieu d'une cascade de forfaits de dernière minute. Bah, la question qu'on va se poser aujourd'hui, elle est toute simple. Est-ce que Jonas Vingegaard est intouchable sur le Giro? Bah oui les amis, parce que là c'est vrai qu'il manque beaucoup de monde, hein. Pas d'Almeida, pas de Carapaz, pas de Landa, le vainqueur sortant Simon Yates n'est pas présent, il est parti à la retraite. Non mais tout le podium de l'année dernière n'est pas là, hein, parce que Del Toro aussi n'est pas présent. Bon, ça enlève un peu de pouvoir de séduction au Giro, même si on a envie de voir Vingegaard.
Mais évidemment que le Giro souffre souvent de la comparaison avec le Tour en raison de son plateau. Les années précédentes, on a quand même eu quelques bagarres. On avait au moins un duo ou un trio capable de briller. Là, cette année, on espère évidemment qu'il y aura des surprises. Un Pellizzari peut nous surprendre. Mais comme ça, quand tu regardes le casting, ça fait pas rêver. Mmh. Et surtout quand tu le compares au casting du Tour de France où toutes les stars seront là, avec en plus Paul Sexas, c'est vrai que le deuxième tour, celui qui est considéré comme le deuxième tour, quand même a pris du plomb dans l'aile.
Je rappelle que Vingegaard n'a jamais gagné le Giro. C'est le seul grand tour qui manque à son palmarès. Il peut gagner les 3 grands tours avant Poggi, hein, donc et rejoindre Hino, Merckx, Anquetil, Gimondi, Contador, Nibali et Froome qui l'ont fait avant. C'est l'autoroute pour Vingegaard, Jérôme Coppel, ou l'autostrade, comme on dit sur place?
Bah, oui, c'est l'autoroute. Hein. S'il lui arrive rien, pas de chute ou voilà, pas d'événement extérieur, il a pas d'adversaire. Hein. Le parcours lui convient très bien. Tu as parlé du chrono et Christophe a parlé un peu de Pellizzari. Mais si on prend ne serait-ce que le chrono, Pellizzari risque de prendre une valise par rapport à Vingegaard. Bon, bah, ça va, ce Giro risque de ressembler au Giro que Tadej Pogacar avait gagné il y a quelques années. Je ne pense pas que Vingegaard ait la même mentalité que Pogacar et veuille aller gagner 5 ou 6 étapes. Il courira peut-être un peu plus sur la réserve en vue du tour, mais en tout cas, il va dominer de la tête et des épaules ce Giro et il va gagner avec 5-6 minutes d'avance facilement, je pense.
Pierre, qui peut l'embêter un petit peu à Vingegaard?
Ah bah, Vingegaard. Son plus gros ennemi, ça reste lui-même.
Je dis, hein, Pellizzari, Gall, Bernal.
Une gamelle dans une descente,
un Arendsman, comme ça. Ouais. O'Connor, les autres prétendants.
Non, il y a quand même, après, il se passe toujours beaucoup de choses dans un tour de 3 semaines. Et je vous rappelle que la dernière fois qu'il y a eu, je mets de côté l'épisode Pogacar, mais un favori ultime comme ça, c'était Remco Evenepoel, et il s'était arrêté en haut du blocos avec un Covid.
C'est pas la même époque.
Non, mais c'était il y a 3 ans, hein, donc tout va vite quand même. Mais c'est un tour où quand t'es l'ultra favori, ça se passe pas toujours bien pour toi. Mais après, c'est vrai que sur le papier, on voit pas trop ce qui peut lui arriver, sachant que déjà la dernière Vuelta où il était pas au top, il avait quand même gagné et ses adversaires les plus solides ne sont pas là. Et que on lui a envoyé en face, sans vouloir être insultant envers personne, des seconds couteaux. Egan Bernal, c'est le second couteau par rapport à Egan Bernal d'il y a 5 ans. Félix Gall, c'est devenu le second couteau de Decathlon, CMA, CGM, on sait pourquoi.
Même le second couteau, même chez UAE, c'est pas le second couteau, c'est le troisième couteau qui arrive, voilà. Ou le quatrième.
Parce que
Almeida est pas là.
Almeida est pas là. Ils ont pas finalement
Del Toro,
ils n'ont pas aligné là-dessus. Donc effectivement,
mais même chez Red Bull, effectivement, hein, Pellizzari, il est derrière dans la hiérarchie, derrière Remco.
C'est derrière sa course nationale.
C'est sa course nationale. Rappel, il a 22 ans, vainqueur du Tour des Alpes avec deux victoires d'étape il y a quelques jours.
C'est vrai qu'on sent que le parcours a été dessiné pour Remco. Et le fait que Remco ne vienne pas a été un peu un petit coup pour les organisateurs qui, à mon avis, s'imaginaient bien un petit Remco qui, lui, a gagné le Tour d'Espagne, pourrait gagner comme ça le Tour d'Italie, ça ferait, tu vois...
Tu dis ça pour le chrono de 42 km, j'ai regardé, c'est deux bouts droits de 20 km, je crois. Hein. C'est autoroute.
Il va... Je pense qu'il met 3000.
Il peut leur mettre, c'est ça, il peut leur mettre combien, Jérôme, là, sur ce chrono, Vingegaard?
Bah, franchement, il peut, facilement 2 minutes, ça peut monter à 3 minutes. Hein, ça
c'est la dixième étape.
Ça peut se chiffrer sur un chrono comme ça, parce que quand t'es plutôt grimpeur comme Pellizzari, et pas forcément des grandes qualités de rouleur, même s'il se défend bien, par rapport à Vingegaard, si Vingegaard est vraiment au top, ça peut, l'addition peut être très 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 salée. Hein. Et après, ça peut permettre à Vingegaard de gérer un petit peu. Il va peut-être pas assommer comme Tadej Pogacar a fait, mais sur une étape style le Blokos, il va terminer avec 40 secondes ou une minute d'avance en attaquant un peu dans le final. Mettre un grand coup au chrono et puis ça te fait vite 4-5 minutes d'avance.
Hein. Blokos, ce sera la 7e étape. Hein. Ce sera la première grosse arrivée évidemment de ce Giro. L'étape Rennes, elle est plutôt à la 19e étape avec 4800 mètres de dénivelé. Hein, on sera plutôt dans les Dolomites à ce moment-là pour le peloton. Vingegaard, en plus, est-ce qu'il n'est pas plus fort que jamais, les amis? Il a 29 ans, il fait un début de saison où il passe par des chemins inédits pour lui. Hein, il a fait le Tour de Catalogne, qu'il a remporté de main de maître. Il a gagné Paris-Nice aussi dans des conditions, parce qu'on parlait des conditions tout à l'heure, Pierre. Il a gagné une étape dans des conditions apocalyptiques, horribles. Est-ce qu'il n'est pas plus fort que jamais? Voilà, c'est non, la question.
Moi, alors,
il a quand même une impression de puissance.
On ne peut pas donner de réponse, parce que moi, je pense que là, il n'a jamais été aussi fort que lorsqu'il a réussi à battre Pogacar sur le Tour de France 2 années consécutives. Là, il était au sommet de son art.
Là, avec une équipe très forte, avec Roglic, qui avait fait
péter les plombs à Poggi. Mais là, il affronte pas Pogacar, donc on ne sait pas ce que ça peut donner aussi fort qu'en 2023 et 2022. Moi, je ne suis pas sûr.
Il y a des moments qui m'ont marqué quand même, on en a déjà parlé ici, Jérôme, notamment sur le Tour de Catalogne, quand Remco essaie de partir sur le plat, façon contre-la-montre, et que Jonas Vingegaard réagit et arrive à partir dans la roue. C'était avant la chute rocambolesque de Remco. Mais il y a quand même eu quelques moments dans l'année qui m'ont interpellé sur le niveau de forme de Vingegaard.
En tout cas, lui, il se dit, il est très optimiste sur sa forme et sur ses ambitions.
Jérôme, t'en penses quoi?
Ouais, mais toutes les années, il est optimiste. Mais c'est vrai, t'as raison, Georges. Moi, c'est cette étape-là où il rejoint Remco Evenepoel sur le plat, et l'étape de Paris-Nice dans les bordures, la pluie, le froid, parce qu'on peut critiquer tout ce qu'on veut, son tempérament, sa manière de courir, etc. Par contre, ça reste un coursier. Hein. Sur le vélo, franchement, il se fait rarement piéger. Il sait faire du vélo, c'est quand même un très bon coureur. Pour moi, sa victoire à Paris-Nice, c'est un peu un trompe-l'œil, si je peux dire, parce que voilà, il y a eu cette étape, il y a eu des chutes de partout. On aurait aimé voir une étape qui se passe sans une chute, enfin, ou piéger Kevin Vauclin ou d'autres coureurs qui chutent, pour vraiment voir, notamment Ayuso, pour voir vraiment à la pédale ce que ça aurait donné. Par contre, quand il va reprendre Remco Evenepoel là sur le plat, quand même sur le terrain du Belge autour de Catalogne, là il marchait fort. Maintenant, je rejoins un peu Christophe, même avec son super début de saison, je ne suis pas sûr qu'il soit aussi fort que ce qu'il était avant. Maintenant, tu l'as dit, il a eu un programme de course en début d'année un petit peu différent. Il va sur le Giro qu'il n'a jamais fait. Et finalement, le Giro, si tout se passe bien avec la concurrence dont on vient de parler, etc., ça va lui faire un stage d'entraînement un peu amélioré. Et peut-être que ça va lui permettre d'arriver au Tour plus fort que ce qu'il a été les années d'avant. Et finalement, c'est peut-être un bon programme de course pour qu'il arrive au Tour vraiment très,
en fait,
très bien.
En fait, le Giro est devenu une course de préparation.
C'est pour eux.
Quand t'es un extraterrestre, oui, en fait. Hein. Pierre.
Oui, il a quand même pas vraiment affronté des cadors absolus cette année. Donc, c'est un peu compliqué de jauger son niveau. Parce qu'il a fait.
Attends, on va le dire, il n'a pas affronté Pogacar, il n'a pas affronté Remco, il n'a pas affronté.
Ah, Remco au Catalogne, mais.
Catalogne, oui,
fait,
oui, oui, c'est vrai,
il n'a pas affronté Sexas.
N'importe quoi, il n'a pas affronté Sexas.
Donc, il s'est effectivement, il n'a pas fait l'UAE Tour parce qu'il est quand même tombé,
il est tombé à
l'entraînement. Et que je suis d'accord que son grand mérite dans l'étape de Paris-Nice, de ne pas être tombé sur l'étape des bordures, l'étape des chutes, de la pluie, etc. Mais il s'est quand même fait emmener par deux Red Bull jusqu'au pied de la dernière difficulté dans un fauteuil. Donc, et pareil, il s'est fait emmener par Remco jusqu'aux 500 mètres de l'étape. Pareil, dans un fauteuil, il profite extrêmement bien des circonstances de course. Et c'est pour ça que c'est sa grande qualité. Hein, en plus d'avoir un niveau exceptionnel, on sent qu'il n'est jamais dépassé par les événements sur son vélo. Mais il va falloir attendre le 4 juillet pour qu'on voit vraiment où il en est cette saison.
Tiens, Jérôme, tu l'as déjà un peu évoqué, mais c'est vrai que c'est la communication de son équipe. Hein. Ils disent que l'année dernière, quand il a fait la Vuelta, et qu'il a remporté après le Tour de France, finalement, ses données n'avaient jamais été aussi bonnes, qu'il était presque même encore plus en forme sur la Vuelta, et que c'est une façon de vendre aujourd'hui le fait que prendre le départ du Giro n'enlève pas ses possibilités de battre, en tout cas d'essayer de battre Pogacar sur le Tour de France. Est-ce que tu y crois ça ou est-ce que c'est de la com?
Alors je crois au fait que passer par le Giro va pas le pénaliser, surtout avec la start list etc, va pas le pénaliser pour le Tour de France. Par contre, je crois pas une minute que ces datas de la Vuelta étaient meilleures que ces datas du Tour de France. Ça, pour moi, c'est de la com et c'est pas la première fois que son équipe le font, hein, dire il a jamais été aussi fort, il arrive au départ du Tour, il a retrouvé son niveau d'avant sa chute du Tour du Pays Basque. Bien sûr, c'est le jeu, ça reste de la com, donc ça j'y crois pas trop. Par contre, le Giro, oui, ça peut lui faire du bien. Il est quand même un coureur qui est endurant, qui encaisse bien les jours de course. Et autant Tadej Pogacar court pas trop, c'est pas que Vingegaard court beaucoup non plus, mais tu sens qu'au fur et à mesure des étapes, il est quand même de mieux en mieux. On a vu ça à Paris-Nice, même au Tour de Catalogne, tu sens quand les jours s'enchaînent, il progresse. Donc voilà, en plus entre le Giro et le Tour de France, il y a de quoi vraiment retravailler, faire un bon bloc de travail etc, et d'aller faire les reconnaissances, tout ce qu'il y a à faire avant le Tour. Donc pour moi là, par contre, le planning de Jonas Vingegaard est vraiment très bon pour arriver très bien au Tour de France. Et je pense que le plan premier de Visma Liesebike et de Jonas Vingegaard, c'était pas forcément le Tour de France au départ. Je pense que c'était vraiment d'aller au Giro pour gagner le Giro, pour avoir gagné les trois grands tours. Mais là, comme la start list s'est quand même bien épurée et qu'il a pas beaucoup de rivaux à sa portée, bah finalement les deux objectifs peuvent, c'est une aubaine, et les deux objectifs peuvent être jouables.
Ouais, de toute façon là, il est obligé de gagner, hein, les amis, on est d'accord. Hein. Il est obligé de gagner parce que sinon là c'est le c'est la victoire au rire.
Ça dépend de ce qui se passe.
Non, mais c'est le déclassement un peu dans la hiérarchie quand même, dans un moment comme ça.
S'il perd à la pédale, tu veux dire, parce que s'il perd sur chute, mais s'il perd à la pédale face à là c'est compliqué.
Non, mais on est d'accord.
Oui, bien sûr, il est dans l'obligation de gagner. S'il ne gagne pas, tous les doutes tomberont à nouveau sur lui. Et puis surtout, il ne fera pas partie des favoris pour le Tour de France. S'il a battu la pédale sur le Giro, il n'existe plus sur le Tour.
On n'a pas trop de doutes sur son niveau. Peut-être qu'il ne soit pas au niveau de Pogacar, c'est un fait.
Mais numéro 2.
Qui n'est pas infamant. Mais qu'il soit au-dessus de tous les autres. C'est assez crédible quand même.
Mais on sent qu'il a des messages à envoyer. Juste une dernière question, Jérôme Coppel. Non, mais c'est vrai, quand il dit Pogacar a gagné les deux derniers tours, maintenant c'est à moi de gagner le tour. Il voit certainement ce qui se passe.
Il essaie peut-être de se convaincre
Exactement, exactement, Christophe.
Non, mais c'est vrai que même on l'avait eu sur RMC dans Bartoli Time en début de saison. Il est dans une communication très positive sur le fait que voilà, c'est la première fois aussi. Souvenez-vous, il y a eu sa lourde chute il y a deux ans.
2024.
Il y a deux ans. Il ne s'est peut-être jamais senti aussi bien, justement. Que là, c'est enfin une saison pour se sentir bien. Il a des choses à prouver. Il y pense forcément, Jonas Vingegaard, Jérôme.
Bien sûr qu'il y pense. Et puis, heureusement qu'il y croit. Alors, peut-être qu'il veut s'en persuader, mais il y croit. Et jusqu'à preuve du contraire, même après sa chute, quand il est revenu au Tour, il était quand même le deuxième plus fort derrière Tadej Pogacar. Et il domine. Alors, il y avait Pogacar qui dominait tout le monde, et ensuite, il y avait Vingegaard qui dominait encore tout le monde. Donc, même avec les pépins qu'il a eus les années précédentes, il était quand même, hormis Pogacar, au-dessus des autres. Donc, heureusement qu'il y croit, et il n'a pas encore fait une croix sur battre Tadej Pogacar à la pédale. Je pense qu'il s'est sait très bien que c'est compliqué. Et puis son équipe, en tout cas pour les grands tours, elle n'a plus vraiment de choix hein, maintenant. Mmh. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Yates, le vainqueur du Giro, a pris sa retraite. Ils n'ont pas vraiment, on parle de Nordhagen, mais il a du mal encore à arriver au très haut niveau. Donc,
ils cherchent un nouveau sponsor,
tours,
donc ils ont besoin de montrer des choses.
Bien sûr, exactement. Donc il a aussi indirectement la pression de son équipe. Et puis même lui, il veut gagner. Même s'il gagne le Giro, il va compléter sa trilogie. Mais le tour qui où il y a tous les regards posés dessus, c'est le Tour de France. Et voilà, il y croit et je pense qu'il a raison d'y croire parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est le deuxième plus fort sur les courses par étapes.
Bon, on serait pas étonné de le voir prendre le maillot rose au sommet du Blocos, septième étape, et peut-être le garder jusqu'au bout, hein, que ce soit une procession
sur
le Giro.
Hein.
Ah, mais il y a un contre-la-montre après derrière.
Et il va aussi peut-être vouloir préserver ses équipiers pour qu'ils soient en forme pour le Tour de France aussi. Hein.
Attention, on répète, c'est une course où il se passe quand même beaucoup de choses imprévisibles.
Exactement. Il y a voilà, un chien qui passe, une porte mal fermée. Non, mais on peut s'en déconner. En plus,
un hélicoptère qui favorise un
hélicoptère
italien.
qui empêche Laurent Fignon d'avoir la bonne aspiration. C'est pour ça que j'ai jamais trop allé là-bas. J'aime bien maîtriser les événements.
C'est une histoire de météo, moi. C'est juste pour ça.
Merci, les amis. Évidemment, restez connectés à la chaîne Grand Plateau parce que là, voilà, on a parlé des favoris. On va rentrer plus en détail sur le parcours. Hein, vraiment, jeudi, on va vous faire votre carnet de route du Giro, les points chauds, les étapes à ne pas manquer. Donc, restez connectés. Et puis, évidemment, on parle de Paul Sexa si vous le voulez sur cette semaine et sa participation au Tour de France. Abonnez-vous. Merci beaucoup.